Chers amis, bonjour et bienvenue dans Planche Casébule où avec Christol Seyec, nous allons parcourir quelques siècles d'histoire en bande dessinée. Donc bien sûr, ce sont les albums qui sont parus, mais ce sont surtout des albums qui ont tous trait à l'histoire véritable, à l'histoire telle qu'elle a été vécue. Nous partirons des premiers chrétiens pour arriver jusqu'au militaire du groupe militaire pardon de Haute Montagne, bande dessinée qui vient de paraître chez Plein Vent. Bonjour Christol.
Bonjour Richard.
Voilà, et évidemment Christol qui a cette spécialité que nous adorons des BD anticommunistes, donc pourra vous en livrer deux ici, alors que moi je serai tristement cantonné dans la bande dessinée historique, mais néanmoins la bande dessinée intéressante, avec comme premier album Les Premiers Chrétiens, Le Temps de la Liberté, donc une série lancée par Plein Vent. Je pense que c'est une série parce que voilà, ça s'appelle Les Premiers Chrétiens et c'est sous-titré Les Temps de la Liberté, donc il y a une chance que ça nous emmène plus loin, d'autant qu'il y avait déjà eu un premier tome, Les Premiers Chrétiens, des apôtres aux premiers martyrs. Voilà, donc. C'est peut-être le deuxième tome, même si évidemment on peut le lire d'une manière totalement indépendante. Et de la Lande, et il met comme d'habitude son un vrai talent de scénariste qui fait de la bonne vulgarisation historique, avec au dessin donc Riccadonna, qui est un auteur vraiment intéressant avec un trait tout à fait aimable. On sent lui aussi voilà qu'il a bien pioché l'ensemble de la documentation historique qu'on lui a donnée. Et il se laisse aller de temps en temps à des planches un peu fantastiques que je trouve remarquablement intelligentes, de la part du scénariste comme de la part du dessinateur. Il y a une vision avec une case qui fait l'intégralité de la planche et même qui part à bord perdu sans qu'il y ait le moindre blanc, où Néron est en train de jouer de la lyre devant Rome incendiée, qui est tout à fait surprenante. Mais il y a aussi, par exemple, une planche avec une grande case qui fait les deux tiers de la page sur les hérésies, et notamment une hérésie héritée du docétisme, donc sur le vieux monde et l'ancien monde, le monde de la chute et ce qui se passe. Entre le fait d'avoir été doté d'une étincelle spirituelle et que il y a le dieu mauvais et le dieu bon. Bref, et c'est remarquable. Il y a aussi, par exemple, l'évocation de toutes les hérésies qui fleurissent autour du message reçu des apôtres, avec le refus de la chair, la mise en doute de l'incarnation, de la résurrection. Et à chaque fois, ce sont des espèces de planches synthétiques, avec un dessin remarquable, aussi un dessin qui montre toutes les divinités de l'Antiquité qui sont ensemble mêlées comme étant une espèce de bête fabuleuse. Vraiment, on est surpris par la qualité du dessin, son intelligence. Et évidemment, comme maintenant les trois quarts des dessinateurs, il y a des gros plans tout à fait vigoureux, il y a des gros plans qui sont purement documentaires. On voit apparaître d'ailleurs de temps en temps la reproduction scrupuleuse de tel ou tel graffiti repéré dans les catacombes. Et ce deuxième tome donc, nous raconte la manière dont l'empereur Constantin Ier, le 13 juin 313, prend un édit capital, l'édit de Milan, qui désormais permettent aux chrétiens de vivre librement leur foi. Et donc toute l'album est une espèce de méditation de l'empereur Constantin qui se demande comment il en est arrivé à prendre cette décision et qui en profite justement pour des premiers martyrs à lui-même, récapituler l'histoire des églises primitives. L'histoire de leurs martyrs. Il y a quelques images un peu saisissantes. Là aussi, même si l'album est très propre, si j'ose dire, voilà, les couleurs ne sont pas sanglantes, les dessins sont calmes, voir griller quelqu'un, voir un autre corps être traîné derrière un char, voir Blandine se faire massacrer dans le Blanche, pardon, dans un amphithéâtre. Ce sont quand même des images choquantes. Voilà, elles ne sont pas dessinées d'une manière sale, mais la matière évoquée est suffisamment surprenante et déplaisante, voilà, pour que ce soit plutôt les grands adolescents à qui vous confiez ce livre. C'est un livre intelligent, c'est un livre, pour autant que je sois capable d'en juger, qui est honnête dans son projet d'exposition de la foi et qui, en tout cas, ne contient aucune erreur manifeste et qui renouvelle, évidemment, très agréablement une iconographie, parfois encore un peu sulpicienne. Eh bien là, pas du tout. Voilà, c'est intelligent, c'est bien fait. La méditation de l'empereur Constantin est une excellente idée de scénariste qui permet d'accompagner justement la décision de l'empereur et de montrer en quoi cette influence civilisatrice des chrétiens, en même temps déstabilisante pour l'Empire romain, mais aussi proposant un nouveau rapport social, est quelque chose qui a fini par requérir l'empereur et qui a fait le pari, si j'ose dire, d'accepter ce culte plutôt que de le combattre, et donc d'une certaine manière de laisser les statues de Jupiter être envahies par la mousse et le lierre au profit des crucifix. Voilà, un très bel album. Et c'est à toi, Christol.
Bien, moi aussi, c'est un très bel album. Dans une maison d'édition dont on parle rarement, elle n'est pas très connue. Et pourtant, là, elle a sorti un titre qui m'a vraiment séduit. Ce sont les éditions Marabule. Je crois que c'est la maison d'édition de bande dessinée du groupe Hachette, de mémoire. Et c'est un album très plaisant quant au scénario et un joli dessin sur la guerre d'Espagne. C'est une série, c'est le premier album, et on se doute que cette série aura pour thème, à travers l'amour entre un communiste et une anarchiste, la lutte intestine que vont se mener ces deux idéologies, le communisme et l'anarchisme. Et donc un thème très intéressant, puisque méconnu, il faut rappeler que pendant la guerre d'Espagne, les anarchistes qui ont combattu, c'est tout à fait normal, contre les franquistes, eh bien, ont été éradiqués, ce qui est plus surprenant, par les communistes. Je connais bien l'histoire puisque j'ai des ascendants qui ont participé à la guerre d'Espagne dans ce monde-là, dans ce milieu-là. Et effectivement, je dois avouer que le scénario tient la route du point de vue historique. Alors, pour dresser le tableau, nous sommes à Madrid en février 1936. Il faut imaginer que dans une grande artère de cette ville, les forces de gauche, ça s'appelle le Frente Populaire, fêtent la victoire électorale des forces de gauche. On en pense ce qu'on en veut, est-ce qu'ils ont gagné, est-ce qu'ils ont triché. Le scénario de la bande dessinée ne s'adonne pas à cette controverse-là. Les forces de gauche fêtent leur victoire. Mais, lors de cette soirée, un jeune boulanger qui s'appelle Manuel, qui est communiste, tombe sous le charme d'une belle barcelonaise qui s'appelle Luxana, étudiante en littérature, qui poursuit donc ses études à Madrid. Et très rapidement, eh ben, ils sont attirés l'un par l'autre, un amour de jeunesse, mais leur amour se révèle rapidement impossible parce que Luxana connaît très bien le sort réservé par les anarchistes en URSS par Staline. Et donc, assez rapidement, ils finissent par s'engueuler au travers de leur conflit idéologique. Donc, Manuel reste à Madrid suite à leur séparation et il va participer à la prise en main de Madrid par les troupes de gauche. Et c'est là que le scénariste a l'honnêteté de montrer la terreur mise en place par les forces de gauche à Madrid qui éradique tous ceux qui sont suspectés d'être franquistes. Tous ceux qui sont bourgeois, riches, qui vont à la messe, oui, effectivement, on essaie de les arrêter, voire de les éliminer. Et de l'autre côté, à Barcelone, la belle Luxana, elle va participer au premier combat contre les forces franquistes et ils vont se retrouver au milieu de la bombe dans la ville de Cartagène, puisque le thème de l'album, le titre, c'est « Le trésor perdu de la guerre d'Espagne ». Et effectivement, voilà que commence la véritable histoire de cette bande dessinée. C'est le sort de l'or de Carthagène. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en septembre 1936, quelques mois donc après les événements du début du récit, des gardes civils espagnols à Madrid rentrent dans la Banque d'Espagne pour récupérer tout l'or qu'il y a dans la Banque d'Espagne et le mettre à l'abri puisque les forces franquistes arrivent sur Madrid. L'idée est d'empêcher les forces franquistes de récupérer l'or espagnol, et que vont faire les républicains, les forces de gauche? Un quart de l'or va en France, trois quarts vont en URSS. Tout cela dans leur esprit pour payer des livraisons d'armes. Pour la petite histoire, il y a des caisses d'or qui ont disparu lors de ce transfert-là. J'ajoute qu'en 1939, lorsque la France a reconnu que Franco avait gagné la guerre, l'État français a rendu l'or non dépensé pour payer des armes à l'Espagne, alors que l'URSS, on s'en doute, a conservé tout l'or espagnol. L'URSS n'a jamais rendu l'or à l'Espagne, ni même encore aujourd'hui. Et à l'époque, la réserve d'or espagnole, je crois que c'était la troisième réserve au monde, qui datait des grandes, des grandes époques où l'Espagne était très riche au XVIe siècle, suite à leur conquête des pays d'Amérique du Sud, où ils ont fait un commerce extraordinaire. C'était l'époque où l'Espagne était le plus grand pays d'Europe. À d'autres époques, c'était la France, à d'autres époques, c'était l'Angleterre, mais à cette époque-là, c'était l'Espagne. Bon. Et donc, effectivement, les anarchistes Luciana espèrent récupérer une quantité d'or pour pouvoir faire vivre leur idéal anarchiste. Et on se doute qu'au fil des albums, cet amour de jeunesse va rejaillir, mais qu'il y aura toujours cette haine idéologique entre les deux camps de gauche, les anarchistes et les communistes. Et je pense vraiment que le scénariste a en tête de bien montrer la perversion du régime communiste qui a profité de la guerre d'Espagne pour éradiquer tous les trotskistes et tous les anarchistes. Ce scénario, il est réalisé par le journaliste financier Philippe Guillaume. Alors, il faut s'arrêter sur son parcours, c'est assez amusant. C'est un juriste qui a fait sa carrière dans le journalisme financier. C'est-à-dire qu'il a créé, il a participé à la création du quotidien boursier La Côte des Fossés, puis après à la création de La Tribune, et avant de rejoindre Les Échos. Donc vraiment un journaliste financier qui est spécialisé dans les marchés financiers. Et parallèlement, c'est un passionné de bande dessinée, qui est le vice-président de l'ACBD, l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée. Donc, il allait, comme pas mal de passionnés de bande dessinée, au festival, et un jour, il rencontre Eric Stalner, le dessinateur scénariste, surtout dessinateur, qui lui présente lui-même Pierre Boisserie, un scénariste plutôt dans la bande dessinée historique. Tous deux discutent, tous deux se rendent compte qu'ils sont passionnés par l'œuvre d'Alexandre Dumas, et ils décident d'écrire ensemble Dantès. Dantès, c'est dans l'univers de la bourse. Puis ensuite, ensemble également, ils continuent avec la banque, puis dernièrement avec le banquier Durache. Donc à chaque fois, ce sont des scénarios qui se déroulent dans le monde de la finance, de la bourse, dans un cadre historique. Et là, pour celui-ci, c'est encore une fois le monde non pas de la bourse mais de l'or, il y a aussi un lien avec le trésor perdu de la guerre d'Espagne, et ce qui m'a plu c'est le lien avec ce cadre historique méconnu, celui de la disparition de l'or, celui de la lutte entre anarchistes et communistes, et il faut l'avouer, on peut être assez touché sincèrement par les deux personnages attachants, ce jeune garçon et cette jeune fille. C'est pas forcément évident dans la bande dessinée de rendre attachant des personnages, et là le scénariste vraiment arrive par son récit à nous les rendre attachants, et c'est aussi dû au dessin. Alors le dessin, je pense que Richard, si tu découvres je sais pas si tu as lu cette bande dessinée, mais si tu découvres la couverture, tu vas reconnaître le trait de Pierre.
On a l'impression que c'est Gibra en fait.
Oui, effectivement, ça ressemble pas mal au trait de Gibra. Peut-être que ça te vient à l'esprit, parce que Gibra a également réalisé 5-6 albums sur la guerre d'Espagne, mais c'est Pierre-Emmanuel de Guest, qui est connu, je crois que c'était aux éditions Plein Vent, qu'il a vraiment fait beaucoup d'adaptations de Frison Roche, Premier de Cordée, La Grande Crevasse, Retour à la Montagne, et également des albums en solo, des albums indépendants sur Tom Morel, Élite Saint-Marc. Par la suite, tout seul, là, faisant scénario et dessin, il a adapté des récits de Jack London, Cro-Blanc, L'Appel de la Forêt, L'Homme et le Loup. Et encore une fois, je l'ai dit la semaine dernière, mais j'apprécie vraiment qu'en ouvrant un album, on retrouve la patte d'un dessin. Et on se dit, bah, bien sûr, c'est le dessin de Pierre-Emmanuel de Geste, que je trouve très attachant. Et si tu cites Gibra, qui est considéré comme l'un des grands maîtres de la bande dessinée actuelle, eh bien, c'est vraiment élogieux pour de Geste, hein, cette référence à Gibra. Moi, ce que j'apprécie, c'est son atmosphère douce. Dans tous ses albums, il y a une atmosphère de douceur. Il a un trait réaliste et précis, mais grâce à sa colorisation lumineuse, même si c'est la guerre, ça reste une ambiance assez douce qui est agréable.
Eh bien, merci beaucoup. C'est le moment de vous dire très classiquement qu'évidemment, si vous avez le plaisir de nous écouter, c'est parce que il y a des gens qui ont permis de le faire grâce à leurs dons. Voilà, Radio Courtoisie est une radio qui existe depuis bientôt 40 ans, qui défend toutes les cultures, la bande dessinée comme la musique byzantine. Et nous sommes ravis, évidemment, de pouvoir échanger avec vous sur ce qui nous intéresse, ce qui doit vous intéresser, sur ce qui peut vous intéresser, voilà, de la politique à la culture. Nous avons lancé la semaine dernière sur 4 plateformes de podcast, la possibilité de réécouter toutes nos émissions, comme vous le voulez, voilà, sur vos téléphones intelligents. Il suffit, vous pouvez embarquer tout Radio Courtoisie dans votre poche, vous pouvez les télécharger, Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon, voilà. Donc maintenant, et y compris, bien sûr, Planche Casse des Bulles. Il manque juste peut-être quelques sous pour faire en sorte que tous ces efforts puissent continuer. N'hésitez pas, faites partie de ceux qui nous soutiennent. 1 euro, 2 euros, 5 euros, allez. Vous pouvez même pousser jusqu'à 10 si jamais vous avez gagné au loto. Et n'hésitez pas, ça nous fera plaisir et ça sera utile à tout le monde. Je vais vous parler maintenant d'un autre album. Il nous reste pas beaucoup de temps. C'est toi qui vas nous parler d'un autre album. Tu vas nous parler du Père Populesco.
Ah bah, très rapidement, mais je ne sais pas si Radio Courtoisie me permet.
5 minutes. Voilà.
5 minutes, mais rassure-moi. Oui. Est-ce que Radio Courtoisie me permet de présenter encore, à la suite du précédent, un nouvel album qui sera anticommuniste?
Oui, je crois que Radio Courtoisie est assez d'accord avec ce positionnement.
Je risque de passer pour un anticommuniste primaire, mais
non,
je me lance.
Secondaire, réfléchi, intellectuel. On sent que c'est construit chez toi, Christophe.
D'autant que c'est une bande dessinée qui a un autre attrait. Il fait l'éloge de la foi chrétienne en démontrant que c'est la foi chrétienne qui a permis aux Polonais, dans les années 1980, à résister et à mettre à terre le régime communiste. Effectivement, il faut le rappeler que la foi chrétienne a eu un rôle central lors de la chute carrément de tout le mur du rideau de fer à la fin des années 80, au début des 90. Bien. Eh bien, cette bande dessinée se focalise sur le père Popielusko, qui est très connu en Pologne, un peu moins en France. Sans rentrer dans le détail, c'est un jeune homme qui, en Pologne, est attiré par la foi chrétienne. Il décide de consacrer sa vie au Seigneur. Il rentre au séminaire. Déjà au séminaire, il subit des pressions de la part des autorités pour qu'il abjure sa foi chrétienne, mais il va résister. Il sera prêtre. Et le jour où Karol Wojtyla, le nouveau pape, revient en Pologne, c'est Jean-Paul II, quelques années après, quelques mois après, les travailleurs commencent des grèves, conduits par Lech Walesa, le chef du syndicat Solidarnosc, et Lech Walesa demande à un évêque qu'un jeune prêtre vienne sur les chantiers donner des messes. Et donc c'est Popielusko qui est choisi, c'est lui qui est plutôt discret, plutôt timide, qui par ses homilies extraordinaires, vibrantes, va réveiller chez ses ouvriers la foi chrétienne, et il va être suivi de très près par cette raison par le pouvoir communiste, et le pouvoir communiste, malheureusement, finira par l'éliminer dans un martyr qui pourrait peut-être rappeler celui du Christ, tellement il a été épouvantable, et ce personnage-là mérite d'être connu, donc il faut lire sa bande dessinée. On peut également regarder un film polonais réalisé par Wiczynski en 2009 sur Popielusko, qui était de bonne qualité. Là, le scénario de la bande dessinée est de Camille Prévost, c'est elle qui a fait le scénario dernièrement sur Carlo Acutis, un saint pour la jeunesse, donc une foi chrétienne également, qu'elle met en évidence dans tous ses titres de bande dessinée. Le scénario, là, elle insiste vraiment sur le courage de ce prêtre qui a défié la police communiste, parce que ce n'était pas évident à l'époque, il risquait sa vie, il l'a fait, il a perdu sa vie, mais ce martyr-là a permis au peuple polonais de se lever. Le dessinateur est italien, c'est Fabrizio Russo, c'est lui également qui a dessiné Carlo Acutis, un saint pour la jeunesse, et également un titre que j'ai bien apprécié sur les Carmélites de Compiègne, aux éditions Plein Vent, si je me souviens bien, il y a 2 ans. Et le coloriste, c'est également en italien, et encore une fois, je le dis assez fréquemment, mais depuis une dizaine d'années, les éditeurs français font vraiment très fréquemment appel à des dessinateurs et coloristes italiens qui travaillent par binôme et qui sont également très doués de leurs mains. Donc là, c'est Roberta Puschedu, qui également avait fait le dessin de Carlo Acutis. Donc c'est l'équipe de Carlo Acutis qui fait une nouvelle œuvre sur... quelqu'un qui n'est pas encore saint, Popielusco. Il a été béatifié, donc il a déjà été reconnu comme ayant été la cause d'un miracle. Il lui manque encore un miracle pour devenir saint. On l'attend.
On l'attend, exactement. Il n'y a plus qu'à.
On l'espère.
Merci beaucoup. On va terminer par une bande dessinée là, qui nous met dans l'actualité immédiate. C'est Extrême, l'histoire du groupe militaire de Haute Montagne, toujours aux éditions Plein Vent. Et là, ça fait vraiment partie de ces bandes dessinées qu'on pourrait croire réservées aux fans Amélie, comme on disait quand j'étais petit, et à ceux qui adorent la chose militaire, puisqu'il s'agit de l'histoire de ce groupe monté par l'armée française et qui consiste à enchaîner les sommets les plus difficiles. Avec ce côté qu'a toujours eu l'armée française d'explorer. Il y a une très belle exposition en ce moment aux Invalides sur l'exploration vue sous le prisme, l'exploration française vue sous le prisme de la participation des militaires à cette exploration. Je rappelle que la cosmonaute française qui est en ce moment au-dessus de nos têtes est colonel dans l'armée française. Et voilà, il s'agit d'aller gravir les plus hauts sommets, d'ouvrir les voies les plus difficiles. Bon, ce ne sont pas des combattants à proprement parler, mais ce sont tous des militaires. Et il y a évidemment chez ces hommes basés à Chamonix le goût de la discipline, le goût du dépassement, aussi ce goût français, voilà, de faire partie de ceux qui sont meilleurs dans un domaine et qui sont meilleurs pas en ayant à leur disposition des milliards de dollars, mais à leur disposition beaucoup de courage, un excellent matériel, un mental d'acier au moins aussi solide que les piolets. Et on est entraîné effectivement par, d'une part, l'intelligence du scénariste qui nous narre cette exploration, la constitution de ce groupe, la manière dont il a été formé, ses héros, évidemment les pertes, ceux qui meurent, et surtout le dessin, qui est un dessin très spécial. J'y retrouve pour ma part, mais peut-être me trompais-je, une utilisation intelligente de la photographie retravaillée ensuite. Il y a énormément de paysages, de documents, de matériel où on a l'impression que c'est travaillé d'après photo, mais avec une espèce de lissage informatique, de lissage graphique tout à fait intelligent qui permet au dessinateur de nous offrir un véritable dessin, un véritable retraitement en fait graphique et intelligent de ces photos, avec des cases qui, à mon sens, n'auraient pas été capables, qu'un dessinateur classique n'aurait pas été capable de faire, des grands panoramas montagneux qui se déploient sur en haut d'une double page. Ils occupent le panorama occupe le tiers supérieur de la double, pendant que les images en dessous sont en train de se déployer. Énormément d'images avec des plongées, des contre-plongées et des gros plans stupéfiants, des vues de la montagne la nuit ou le jour, avec ces couleurs si spéciales de la haute altitude qui sont superbes, tout ce qui se passe au Grand Nord. On est à chaque fois surpris par l'immensité de ces paysages et ces silhouettes, parfois minuscules, parfois plus grandes. La matière en fait de la roche, la matière de la neige et des glaces L'album a un charme puissant qui est vraiment celui des expéditions en montagne. C'est parfaitement rendu avec des conversations entre les différents militaires qui constituent ce groupe militaire de haute montagne qui nous entraîne au cœur moins de la chose militaire que de la chose alpine, de cette capacité de l'homme à se dépasser pour aller. Armé, surtout de son courage, parce que les piolets ont beau l'air d'être particulièrement techniques et les tentes être particulièrement intelligentes. Voilà, quand on se retrouve à 8000 mètres de haut avec en plein blizzard en train de se partager une bouteille d'oxygène à 4, malgré tout, on sent qu'il y a autre chose que l'excellence du matériel pour vous pousser. Et à travers ce groupe militaire de haute montagne, c'est aussi, malgré tout, l'armée de terre qui est mise à l'honneur avec cette capacité à sélectionner des hommes et à considérer que l'exploit en tant que tel n'est pas une mauvaise chose pour souder l'esprit de corps. Merci de nous avoir écoutés. Donc, c'était une bande dessinée donc, scénarisée par Pertorello et Pradel et dessinée, Stoffel, pardon, et dessinée par... dessiné par Bruno Pradel, vraiment excellente bande dessinée. Alors là aussi, je donne dans le superlatif, pour ceux qui aiment la montagne, c'est pas non plus un chef-d'œuvre de bande dessinée, mais c'est vraiment quelque chose qui vous entraîne dans cet univers si précis. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine, hélas sans Crisol, mais qui nous reviendra dans 15 jours. Merci beaucoup et à très vite sur les ondes de Radio Courtoisie.